Chapitre 10. D'Épernon à son pourpoint déchiré, Schomberg éteint en bleu, Chico est de plus en plus roi de France. Tandis que Maître Lahurière entassait signature sur signature, tandis que Chico consignait Gorenflot la corne d'abondance, tandis que Bussy revenait à la vie dans ce bienheureux petit jardin tout plein de fleurs, de chants et d'amour, Henri, sombre de tout ce qu'il avait vu par la ville, irrité des prédications qu'il avait entendues dans les églises, furieux des saluts mystérieux recueillis par son frère d'Anjou qu'il avait vu passer devant lui dans la rue Saint-Honoré, accompagné de Monsieur de Guise et de Monsieur de Mayenne, avec toute une suite de gentilshommes que semblait commander Monsieur de Montsoreau, Henri, disons-nous, était rentré au Louvre en compagnie de Maugiron et de Quélus. Le roi, selon son habitude, était sorti avec ses quatre amis, mais à quelques pas du Louvre, Schomberg et d'Épernon, ennuyés de voir Henri soucieux et content qu'au milieu d'un pareil remue-ménage, il y avait des chances pour le plaisir et les aventures, Schomberg et d'Épernon avaient profité de la première bousculade pour disparaître au coin de la rue de la Strusse, et tandis que le roi et ses deux amis continuaient leur promenade par le quai, ils s'étaient laissés emporter par la rue d'Orléans. Ils n'avaient pas fait 100 pas que chacun avait déjà son affaire. D'Épernon avait passé sa sarbacane entre les jambes d'un bourgeois qui courait et qui s'en était allé rouler à 10 pas, et Schomberg avait enlevé la coiffe d'une femme qu'il avait cru laide et vieille et qui s'était trouvée par fortune jeune et jolie. Mais tous deux avaient mal choisi leur jour pour s'attaquer à ces bons Parisiens d'ordinaire si patients. Ils couraient par les rues cette fièvre de révolte qui bat quelquefois tout à coup des ailes dans les murs des capitales. Le bourgeois culbuté s'était relevé et avait crié « Au parpaillot !» C'était un zélé, on le crut, et on s'élança vers d'Épernon. La femme décoiffée avait crié « Au mignon !» Ce qui était bien pis, et son mari, qui était un teinturier, avait lâché sur Schomberg ses apprentis. Schomberg était brave, il s'arrêta, voulut parler haut, et mit la main à son épée. D'Épernon était prudent, il s'enfuit. Henri ne s'était plus occupé de ces deux mignons, il les connaissait pour avoir l'habitude de se tirer d'affaire tous les deux, l'un grâce à ses jambes, l'autre grâce à ses bras. Il avait donc fait sa tournée, comme nous avons vu, et sa tournée faite, il était revenu au Louvre. Il était rentré dans son cabinet d'armes, et assis sur son grand fauteuil, il tremblait d'impatience, cherchant un bon sujet de se mettre en colère. Maugiron jouait avec Narcisse, le grand lévrier du roi. Quélus, les poings appuyés contre ses joues, s'était accroupi sur un coussin et regardait Henri. « ils vont !» lui disait Henri. Leur complot marche, tantôt tigre, tantôt serpent, quand ils ne bondissent pas, ils rampent. « Eh, sire, dit Quélus, est-ce qu'il n'y a pas toujours des complots dans un royaume? Que diable voudriez-vous que fissent les fils de roi, les frères de roi, les cousins de roi, s'ils ne complotaient pas ?»« Tenez, en vérité, Quélus, avec vos maximes absurdes et vos grosses joues boursouflées, vous me faites l'effet d'être en politique de la force du Gilles de la Foire Saint-Laurent. » Quélus pivota sur son coussin et tourna irrévérencieusement le dos au roi. « Voyons, Maugiron, reprit Henri, ai-je raison ou tort, mordieu? Et doit-on me bercer avec des fadaises et des lieux communs comme si j'étais un roi vulgaire ou un marchand de laine qui craint de perdre son chat favori ?»« Eh, sire, dit Maugiron, qui était toujours et en tout point de l'avis de Quélus, si vous n'êtes pas un roi vulgaire, prouvez-le en faisant le grand roi. Que diable, voilà Narcisse, c'est un bon chien, c'est une bonne bête. Mais quand on lui tire les oreilles, il grogne, et quand on lui marche sur les pattes, il mord. Bon, dit Henri, voilà l'autre qui me compare à mon chien. Non pas, sire, dit Maugiron, vous voyez bien au contraire que je mets Narcisse fort au-dessus de vous, puisque Narcisse sait se défendre et que votre majesté ne le sait pas. Et à son tour, il tourna le dos à Henri. « Allons, me voilà seul, dit le roi. Fort bien, continuez, mes bons amis, pour qui l'on me reproche de dilapider le royaume. Abandonnez-moi, insultez-moi, égorgez-moi tous. Je n'ai que des bourreaux autour de ma personne, parole d'honneur. Hein, Chicot, mon pauvre Chicot, où es-tu? Bon, dit Quélus, il ne nous manquait que cela, voilà qu'il appelle Chicot à présent. C'est tout simple, répondit Maugiron. Et l'insolent se mit à mâchonner entre ses dents certains proverbes latins qui se traduisent en français par l'axiome « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Henri fronça le sourcil, un éclair de terrible courroux illumina ses grands yeux noirs, et pour cette fois, certes, c'était bien un regard de roi que le prince lança sur ses indiscrets amis. Mais sans doute épuisé par cette velléité de colère, Henri retomba sur sa chaise et frotta les oreilles d'un des petits chiens de sa corbeille. En ce moment, un pas rapide retentit dans les antichambres et d'Épernon apparut, sans toquet, sans manteau et son pourpoint tout déchiré. Quélus et Maugiron se retournèrent et Narcisse s'élança vers le nouveau venu en jappant, comme si des courtisans du roi, ils ne reconnaissaient que les habits. Jésus-Dieu! S'écria Henri, que t'est-il donc arrivé? Sire, dit d'Épernon, regardez-moi, voici de quelle façon l'on traite les amis de votre majesté. Et qui t'a traité ainsi? Demanda le roi. Mon Dieu, votre peuple, ou plutôt celui de monsieur le duc d'Anjou, qui criait, vive la Ligue, vive la Messe, vive Guise, vive François, vive tout le monde, enfin, excepté, vive le roi. Et que lui as-tu donc fait à ce peuple pour qu'il te traite ainsi? Moi, rien. Que voulez-vous qu'un homme fasse à un peuple? Il m'a reconnu pour ami de votre majesté, et cela lui a suffi. Mais Schomberg? Quoi, Schomberg? Schomberg n'est pas venu à ton secours? Schomberg ne t'a pas défendu? Corbeuf, Schomberg avait assez à faire pour son propre compte. Comment cela? Oui, je l'ai laissé aux mains d'un teinturier dont il avait décoiffé la femme et qui, avec ses 5 ou 6 garçons, était en train de lui faire passer un mauvais quart d'heure. Par l'amour de Dieu, s'écria le roi, et tu l'as laissé, mon pauvre Schomberg, dit Henri en se levant. Oh, j'irai moi-même à son aide. Peut-être pourra-t-on dire, ajouta Henri en regardant Maugiron et Quélus, que mes amis m'ont abandonné, mais on ne dira pas au moins que j'ai abandonné mes amis. Merci, sire, dit une voix derrière Henri. Merci, me voilà. Gottverdamme mich, je m'en suis tiré tout seul, mais ce n'est pas sans peine. Oh, Schomberg, c'est la voix de Schomberg, crièrent les trois mignons. Mais où diable es-tu? Pardieu, où je suis? Vous me voyez bien, s'écria la même voix. Et en effet, des profondeurs obscures du cabinet, on vit s'avancer non pas un homme, mais une ombre. Schomberg, s'écria le roi, d'où viens-tu? D'où sors-tu? Pourquoi es-tu de cette couleur? En effet, Schomberg, des pieds à la tête, sans exception d'aucune partie de ses vêtements ou de sa personne, Schomberg était du plus beau bleu de roi qu'il fût possible de voir. Der Teufel, s'écria-t-il, les misérables, je ne m'étonne plus si tout ce peuple courait après moi. Et qu'y a-t-il donc? Demanda Henri. Si tu étais jaune, cela s'expliquerait par la peur, mais bleu. Il y a qu'ils m'ont trempé dans une cuve, les coquins. J'ai cru qu'ils me trempaient tout bonnement dans une cuve d'eau, et c'était dans une cuve d'indigo. Oh, mon Dieu, dit Quélus en éclatant de rire, ils sont punis par où ils ont péché. C'est très cher, l'indigo, et tu le remportes au moins pour 20 écus de teinture. Ah, je te conseille de plaisanter, toi, j'aurais voulu te voir à ma place. Et tu n'en as pas étripé quelqu'un? Demanda Maugiron. Ah, j'ai laissé mon poignard quelque part, voilà tout ce que je sais, enfoncé jusqu'à la garde dans un fourreau de chair. Mais en une seconde, tout a été dit. J'ai été pris, soulevé, emporté, trempé dans la cuve et presque noyé. Et comment t'es-tu tiré de leurs mains? Ah, j'ai eu le courage de commettre une lâcheté, sire. Et qu'as-tu fait? J'ai crié, vive la Ligue! C'est comme moi, dit d'Épernon. Seulement, on m'a forcé d'ajouter, vive le duc d'Anjou. Moi aussi, dit Schomberg en mordant ses mains de rage. Moi aussi, je l'ai crié. Mais ce n'est pas tout. Comment, dit le roi, ils t'ont encore fait crier autre chose, mon pauvre Schomberg? Non, ils ne m'ont pas fait crier autre chose. C'est bien assez comme cela, Dieu merci. Mais au moment où je criais, vive le duc d'Anjou, eh bien, devinez qui passait. Mais comment veux-tu que je devine? Bussy, son damné Bussy. Lequel m'a entendu crier vive son maître? Ah, le fait est qu'il n'a rien dû y comprendre, dit Quélus. Parbleu, comme il était difficile de voir ce qui se passait, j'avais le poignard sur la gorge et j'étais dans une cuve. Comment, dit Maugiron, il ne t'a pas porté secours, cela se devait cependant, de gentilhomme à gentilhomme. Oui, ben, il paraît qu'il avait à songer à bien autre chose, il ne lui manquait que des ailes pour s'envoler, à peine touchait-il encore la terre. Et puis, dit Maugiron, il ne t'aura peut-être pas reconnu. La belle raison. Étais-tu déjà passé au bleu? Ah, c'est juste, dit Schomberg. Ah, dans ce cas, il serait excusable, reprit Henri, car en vérité, mon pauvre Schomberg, je ne te reconnais pas moi-même. Ah, n'importe, répliqua le jeune homme, qui n'était pas pour rien d'origine allemande. Nous nous retrouverons autre part qu'au coin de la rue Coquillère, et un jour que je ne serai pas dans la cuve. Au moins, dit d'Épernon, ce n'est pas au valet que j'en veux, c'est au maître. Ce n'est pas à Bussy que je voudrais avoir affaire, c'est à Monseigneur le duc d'Anjou. Ah, « Oui, oui, s'écria Schomberg, monseigneur le duc d'Anjou, qui veut nous tuer par le ridicule en attendant qu'il nous tue par le poignard. Faux duc d'Anjou, dont on chantait des louanges par les rues, vous les avez entendus, sire, dirent ensemble Quélus et Maugiron. Ah, le fait est que c'est lui qui est duc et maître de Paris à cette heure, et non plus le roi. Essayez un peu de sortir, lui dit d'Épernon, et vous verrez si l'on vous respectera plus que nous. » « Ah, mon frère !» murmura Henri d'un ton menaçant. Ah oui, sire, vous direz encore bien des fois, comme vous venez de le dire, ah mon frère, sans prendre aucun parti contre ce frère, dit Schomberg, et cependant, je vous le déclare, et c'est clair pour moi, ce frère est à la tête de quelque complot. Eh, mordieu, s'écria Henri, c'est ce que je disais à ces messieurs quand tu es entré tout à l'heure, d'Épernon, mais ils m'ont répondu en haussant les épaules et en me tournant le dos. « Sire, dit Maugiron, nous avons haussé les épaules et tourné le dos, non point parce que vous disiez qu'il y avait un complot, mais parce que nous ne vous voyons pas en humeur de le comprimer. »« Et maintenant, continua Quélus, nous nous retournons vers vous pour vous redire, sauvez-nous, sire, ou plutôt sauvez-vous, car nous tombés, vous êtes morts. » Demain, monsieur de Guise vient au Louvre, demain il demandera que vous nommiez un chef à la Ligue, demain vous nommerez le duc d'Anjou, comme vous avez promis de le faire, et alors, une fois le duc d'Anjou chef de la Ligue, c'est-à-dire à la tête de 100 000 Parisiens échauffés par les orgies de cette nuit, le duc d'Anjou fera de vous ce qu'il voudra. Ah, dit Henri, et en cas de résolution extrême, vous seriez donc disposé à me seconder? Oui, sire, répondirent les jeunes gens d'une seule voix. Pourvu cependant, sire, dit d'Épernon, que votre majesté me donne le temps de mettre un autre toquet, un autre manteau et un autre pourpoint. Passe dans ma garde-robe, d'Épernon, et mon valet de chambre te donnera tout ça. Nous sommes de la même taille. Et pourvu que vous me donniez le temps à moi de prendre un bain, « passe dans mon étuve, Schomberg, et mon baigneur aura soin de toi. »« Sire, dit Schomberg, nous pouvons donc espérer que l'insulte ne restera pas sans vengeance. » Henri étendit la main en signe de silence et, baissant la tête sur sa poitrine, parut réfléchir profondément. Et puis, au bout d'un instant, « Quélus, dit-il, informez-vous si monsieur d'Anjou est rentré au Louvre. » Quélus sortit. D'Épernon et Schomberg attendaient avec les autres la réponse de Quélus, tant leurs ailes s'étaient ranimées par l'imminence du danger. Ce n'est point pendant la tempête, c'est pendant le calme qu'on voit les matelots récalcitrants. « Sire, demanda Maugiron, votre majesté prend donc le parti ?»« Vous allez voir, répliqua le roi. » Quélus revint. « Monsieur le duc n'est pas encore rentré, dit-il. » « C'est bien, répondit le roi. D'Épernon, allez changer d'habit. Schomberg, allez changer de couleur. Et vous, Quélus et vous, Maugiron, descendez dans le préau et faites-moi bonne garde jusqu'à ce que mon frère rentre. » « Et quand il rentrera ?» demanda Quélus. « Quand il rentrera, vous ferez fermer toutes les portes. Allez. »« Ah, bravo, sire, dit Quélus. »« Sire, dit d'Épernon, dans 10 minutes, je suis ici. » moi, sire, je ne puis dire quand j'y serai, et ce sera selon la qualité de la teinture. Venez le plus tôt possible, répondit le roi, voilà tout ce que j'ai à vous dire. Mais votre majesté va donc rester seule, demanda Maugiron. Non, Maugiron, je reste avec Dieu, à qui je vais demander sa protection pour notre entreprise. Priez-le bien, sire, dit Quélus, car je commence à croire qu'il s'entend avec le diable pour nous damner tous ensemble, dans ce monde et dans l'autre. « Amen !» dit Maugiron. Les deux jeunes gens qui devaient faire la garde sortirent par une porte, les deux qui devaient changer de costume sortirent par l'autre. Le roi, resté seul, alla s'agenouiller à son prie-Dieu. Minuit sonna. Les portes du Louvre fermaient d'ordinaire à minuit. Mais Henri avait sagement calculé que le duc d'Anjou ne manquerait pas de se coucher ce soir-là au Louvre pour laisser moins de prise aux soupçons que le tumulte de Paris pendant cette soirée pouvait faire naître dans l'esprit du roi. Le roi avait donc ordonné que les portes restassent ouvertes jusqu'à 1 heure. À minuit un quart, Thiélus remonta. « Sire, le duc est rentré, dit-il. Que fait Maugiron ? Il est resté en sentinelle pour voir si le duc ne sortira point. Il n'y a pas de danger. Alors, dit Thiélus, en faisant un mouvement pour indiquer au roi qu'il n'y avait plus qu'à agir. Allons, laissons-le se coucher tranquillement, dit Henri. Qu'y a-t-il près de lui ? Monsieur de Montsoreau et ses gentilshommes ordinaires. Et monsieur de Bussy ? Monsieur de Bussy n'y est pas. Ah, bon, dit le roi, à qui c'était un grand soulagement que de sentir son frère privé de sa meilleure épée. « Qu'ordonne le roi ?» demanda Thiélus. « Qu'on dise à d'Épernon et à Schomberg de se hâter et qu'on prévienne monsieur de Montsoreau que je désire lui parler. » Thiélus s'inclina et s'acquitta de la commission avec toute la promptitude que peuvent donner à la volonté humaine le sentiment de la haine et le désir de la vengeance réunis dans le même cœur. 5 minutes après, d'Épernon et Schomberg entraient, l'un rhabillé à neuf, l'autre débarbouillé au vif. Il n'y avait que les cavités du visage qui avaient conservé une teinte bleuâtre qui, au dire de l'étuviste, ne s'en irait tout à fait qu'à la suite de plusieurs bains de vapeur. Après les deux mignons, monsieur de Montsoreau parut. « Monsieur le capitaine des gardes de votre majesté vient de m'annoncer qu'elle me faisait l'honneur de m'appeler près d'elle, » dit le grand veneur en s'inclinant. « Oui, monsieur, dit Henri, oui. En me promenant ce soir, j'ai vu les étoiles si brillantes et la lune si belle que j'ai pensé que par un si magnifique temps, nous pourrions faire demain une chasse superbe. Il n'est que minuit, monsieur le comte. Partez donc pour Vincennes à l'instant même. Faites-moi détourner un daim et demain nous le courrons. « Mais, sire, dit Montsoreau, je croyais que demain votre majesté avait fait l'honneur de donner un rendez-vous à monseigneur d'Anjou et à monsieur de Guise pour nommer un chef à la Ligue. »« Eh bien, monsieur, après, dit le roi, avec cet accent hautain auquel il était si difficile de répondre. « Après, sire, après, le temps manquera peut-être. »« Le temps ne manque jamais, monsieur le grand veneur, à celui qui sait l'employer. » C'est pour cela que je vous dis, vous avez le temps de partir ce soir, pourvu que vous partiez à l'instant même, vous avez le temps de détourner un daim cette nuit, et vous aurez le temps de tenir les équipages prêts pour demain à 10 heures. Allez donc, et à l'instant même. Thiélus, Schomberg, faites ouvrir à monsieur de Montsoreau la porte du Louvre, de ma part, de la part du roi, et toujours de la part du roi, faites-la fermer quand il sera sorti. » Le grand veneur se retira tout étonné. « C'est donc une fantaisie du roi ? » demanda-t-il aux deux jeunes gens dans l'antichambre. « Oui, » répondirent laconiquement ceux-ci. Monsieur de Montsoreau vit qu'il n'y avait rien à tirer de ce côté-là et se tut. « Oh » murmura-t-il en lui-même en jetant un regard du côté des appartements du duc d'Anjou, « il me semble que cela ne flaire pas bon pour son Altesse royale. » Mais il n'y avait pas moyen de donner l'éveil au prince. Thiélus et Schomberg se tenaient l'un à droite, l'autre à gauche du grand veneur. Un instant, il crut que les deux mignons avaient des ordres particuliers et le tenaient prisonnier, et ce ne fut que lorsqu'il se trouva hors du Louvre et qu'il entendit la porte se refermer derrière lui qu'il comprit que ses soupçons étaient mal fondés. Au bout de 10 minutes, Schomberg et Thiélus étaient de retour près du roi. « Maintenant, dit Henri, du silence, et suivez-moi, tous quatre. »« Où allons-nous, sire ?» demanda d'Épernon, toujours prudent. « Ceux qui viendront le verront, » répondit le roi. « Allons, » dirent ensemble les 4 jeunes gens. Les mignons assurèrent leurs épées, agrafèrent leurs manteaux et suivirent le roi, qui, un falot à la main, les conduisit par le corridor secret que nous connaissons et par lequel, plus d'une fois, nous avons vu la reine-mère et le roi Charles IX se rendre chez leur fille et chez leur sœur, cette bonne Margot dont le duc d'Anjou, nous l'avons déjà dit, avait pris les appartements. Un valet de chambre veillait dans le corridor, mais avant qu'il eût eu le temps de se replier pour avertir son maître, Henri l'avait saisi de sa main en lui ordonnant de se taire et l'avait passé à ses compagnons, lesquels l'avaient poussé et enfermé dans un cabinet. Ce fut donc le roi qui tourna lui-même le bouton de la chambre où couchait Monseigneur le duc d'Anjou. Le duc venait de se mettre au lit, bercé par les rêves d'ambition qu'avaient fait naître en lui tous les événements de la soirée. Il avait vu son nom exalté et le nom du roi flétri. Conduit par le duc de Guise, il avait vu le peuple parisien s'ouvrir devant lui et ses gentilshommes, tandis que les gentilshommes du roi étaient hués, bafoués, insultés. Jamais depuis le commencement de cette longue carrière, si pleine de sourdes menées, de timides complots et de mines souterraines, il n'avait encore été si avant dans la popularité et, par conséquent, dans l'espérance. Il venait de déposer sur sa table une lettre que monsieur de Montsoreau lui avait remise de la part du duc de Guise, lequel lui faisait en même temps recommander de ne pas manquer de se trouver le lendemain au lever du roi. Le duc d'Anjou n'avait pas besoin d'une telle recommandation, et il s'était bien promis de ne pas se manquer à lui-même à l'heure du triomphe. Mais sa surprise fut grande quand il vit la porte du couloir secret s'ouvrir, et sa terreur fut au comble lorsqu'il reconnut que c'était sous la main du roi qu'elle s'était ouverte ainsi. Henri fit signe à ses compagnons de demeurer sur le seuil de la porte, et s'avança vers le lit de François, grave, le sourcil froncé, et sans prononcer une parole. « Sire, balbutia le duc, l'honneur que me fait votre majesté était si imprévu. Qu'il vous effraie, n'est-ce pas ?» dit le roi, « je comprends cela. Mais non, non, demeurez, mon frère, ne vous levez pas. Mais, sire, cependant, permettez, » fit le duc tremblant et attirant à lui la lettre du duc de Guise qu'il venait d'achever de lire. « Vous lisiez ?» demanda le roi. « Oui, sire. » « Lettre intéressante, sans doute, puisqu'elle vous tenait éveillé à cette heure avancée de la nuit. »« Oh, sûr, répondit le duc, avec un sourire glacé, rien de bien important, le petit courrier du soir. »« Oui, fit Henri, je comprends cela, courrier du soir, courrier de Vénus. »« Ah, mais non, je me trompe, on ne cachette point avec des sceaux d'une pareille dimension les billets qu'on fait porter par Iris ou par Mercure. » Le duc cacha tout à fait la lettre. « Il est discret, ce cher François, » dit le roi avec un rire qui ressemblait trop à un grincement de dents pour que son frère n'en fût pas effrayé. Cependant, il fit un effort et essaya de reprendre quelque assurance. « Votre Majesté veut-elle me dire quelque chose en particulier ?» demanda le duc, à qui un mouvement des quatre gentilshommes demeurés à la porte venait de révéler qu'ils écoutaient, se réjouissaient du commencement de la scène. « Ce que j'ai de particulier à vous dire, monsieur, » dit le roi en appuyant sur ce mot qui était celui que le cérémonial de France accorde aux frères des rois, « vous trouverez bon que pour aujourd'hui je vous le dise devant témoin. Car, messieurs, continua-t-il en se retournant vers les quatre jeunes gens, « écoutez bien, le roi vous le permet. » Le duc releva la tête. Sire, dit-il, avec ce regard haineux et plein de venin que l'homme a emprunté au serpent, avant d'insulter un homme de mon rang, vous eussiez dû me refuser l'hospitalité du Louvre. Dans l'hôtel d'Anjou, au moins, j'eusse été maître de vous répondre. En vérité, dit Henri, avec une ironie terrible, vous oubliez donc que partout où vous êtes mon sujet, et que mes sujets sont chez moi partout où ils sont. « Car, Dieu merci, je suis le roi du sol. »« Sire, s'écria François, je suis au Louvre, chez ma mère. »« Et votre mère est chez moi, » continua Henri. « Voyons, un bréjon, monsieur, donnez-moi ce papier. »« Lequel ?»« Celui que vous lisiez, parbleu, celui qui était tout ouvert sur votre table de nuit et que vous avez caché quand vous m'avez vu. »« Sire, réfléchissez, » dit le duc. « À quoi ?» demanda le roi. « À ceci, que vous faites une demande indigne d'un bon gentilhomme, mais en revanche digne d'un officier de votre police. » Le roi devint livide. « Cette lettre, monsieur, dit-il. »« Une lettre de femme, sire, réfléchissez, » dit François. « Il y a des lettres de femmes fort bonnes à voir, fort dangereuses à ne pas être vues, témoins celles qu'écrit notre mère. »« Mon frère, » dit François, « « Cette lettre, monsieur !» s'écria le roi en frappant du pied, « où je vous la fais arracher par quatre Suisses !» Le duc bondit hors de son lit et, tenant la lettre froissée dans sa main avec l'intention manifeste de gagner la cheminée afin de la jeter dans le feu. Vous feriez cela, dit-il, à votre frère? Henri devina son intention et se plaça entre lui et la cheminée. Non pas à mon frère, dit-il, mais à mon plus mortel ennemi. Non pas à mon frère, mais au duc d'Anjou, qui a couru toute la soirée les rues de Paris à la queue du cheval de monsieur de Guise. À mon frère, qui essaye de me cacher quelques lettres de l'un ou l'autre de ses complices, messieurs les princes lorrains. Pour cette fois, dit le duc, votre police est mal faite. Je vous dis que j'ai vu sur le cachet ces trois fameuses merlettes de Lorraine qui ont la prétention d'avaler les fleurs du lys de France. Donnez donc, mordieu, donnez, ou... Henri fit un pas vers le duc et lui posa la main sur l'épaule. François n'eut pas plutôt senti s'apesantir sur lui la main royale, il n'eut pas plutôt d'un regard oblique considéré l'attitude menaçante des quatre mignons, lesquels commençaient à dégainer, que, tombant à genoux, à demi renversé sur son lit, il s'écria « À moi, au secours, à l'aide, mon frère veut me tuer !» Ces paroles, empreintes d'un accent de profonde terreur que leur donnait la conviction, firent impression sur le roi et éteignirent sa colère, par cela même qu'elle la supposait plus grande qu'elle n'était. Il pensa qu'en effet François pouvait craindre un assassinat et que ce meurtre eût été un fratricide. Alors il lui passa comme un vertige à l'idée que sa famille, famille maudite comme toutes celles dans lesquelles doit s'éteindre une race, il lui passa un vertige en songeant que dans sa famille, les frères assassinaient les frères par tradition. « Non, dit-il, vous vous trompez, mon frère, et le roi ne vous veut aucun mal du genre de celui que vous redoutez. Du moins, vous avez lutté, avouez-vous vaincu, vous savez que le roi est le maître, ou si vous l'ignoriez, vous le savez maintenant. Eh bien, dites-le non seulement tout bas, mais encore tout haut. »« Oh, je le dis, mon frère, je le proclame, s'écria le duc. Fort bien. Cette lettre, alors, car le roi vous ordonne de lui rendre cette lettre. » Le duc d'Anjou laissa tomber le papier. Le roi le ramassa et, sans le lire, le plia et l'enferma dans son aumônière. « Est-ce tout, sire ? » dit le duc avec son regard louche. « Non, monsieur, dit Henri, il vous faudra encore, pour cette rébellion, qui heureusement n'a point eu de fâcheux résultats, il vous faudra, si vous le voulez bien, garder la chambre jusqu'à ce que mes soupçons à votre égard aient été complètement dissipés. Vous êtes ici, l'appartement vous est familier, commode, et il n'a pas trop l'air d'une prison. Restez-y. Vous aurez bonne compagnie, du moins de l'autre côté de la porte, car pour cette nuit, ces quatre messieurs vous garderont. Demain matin, ils seront relevés par un poste de Suisse. Mais, mes amis à moi, ne pourrais-je les voir? Qu'appelez-vous vos amis? Mais monsieur de Montsoreau, par exemple, monsieur de Ribérac, monsieur Entraguet, monsieur de Bussy. Ah oui, dit le roi. « Parlez de celui-là encore. »« Aurait-il eu le malheur de déplaire votre majesté ?»« Oui, dit le roi. »« Quand cela ?»« Mais toujours, et cette nuit particulièrement. »« Cette nuit ? Qu'a-t-il donc fait cette nuit ?»« Il m'a fait insulter dans les rues de Paris. »« Vous, sire ? » ?»« Oui, moi, ou mes fidèles, ce qui est la même chose. » Bussy a fait insulter quelqu'un dans les rues de Paris cette nuit ? On vous a trompé, sire. » Je sais ce que je dis, monsieur. Sire, s'écria le duc avec un air de triomphe, monsieur de Bussy n'est pas sorti de son hôtel depuis 2 jours. Il est chez lui, couché, malade, grelottant de fièvre. Le roi se tourna vers Schomberg. S'il grelottait de fièvre, dit le jeune homme, ce n'était pas chez lui du moins, mais dans la rue Coquillère. Qui vous a dit cela? Demanda le duc d'Anjou en se soulevant que Bussy était dans la rue Coquillère. Je l'ai vu. « Vous avez vu Bussy, dehors ?»« Bussy, frais, dispos, joyeux, et qui paraissait le plus heureux homme du monde, et accompagné de son acolyte ordinaire, ce remis, cet écuyer, ce médecin, que sais-je. »« Alors je n'y comprends plus rien, dit le duc avec stupeur. J'ai vu monsieur de Bussy dans la soirée, il était sous les couvertures. Il faut qu'il m'ait trompé moi-même. » C'est bien, dit le roi, monsieur de Bussy sera puni comme les autres et avec les autres, lorsque cette affaire s'éclaircira. Le roi, qui pensa que c'était un moyen de détourner de lui la colère du roi que de la laisser s'écouler sur Bussy, le roi n'essaya point de prendre davantage la défense de son gentilhomme. Si monsieur de Bussy a fait cela, dit-il, et si après avoir refusé de sortir avec moi, il est sorti seul, c'est qu'il avait effectivement sans doute des intentions qu'il ne pouvait m'avouer à moi, dont il connaît le dévouement pour votre majesté. Vous entendez, messieurs, ce que prétend mon frère, dit le roi. Il prétend qu'il n'a pas autorisé monsieur de Bussy. Tant mieux, dit Schomberg. Et pourquoi tant mieux? Parce que votre majesté nous en laissera peut-être faire ce que nous voulons. C'est bien, on verra plus tard, dit Henri. Mais messieurs, je vous recommande mon frère. Ayez pour lui, pendant toute cette nuit, où vous allez avoir l'honneur de lui servir de garde, tous les égards qu'on a pour un prince de sang, c'est-à-dire au premier du royaume après moi. Oh, sire, fit Caylus avec un regard qui fit frissonner le duc, soyez donc tranquille, nous savons tout ce que nous devons à son Altesse. C'est bien, adieu, messieurs, dit Henri. Sire, s'écria le duc, plus épouvanté de l'absence du roi qu'il ne l'avait été de sa présence. Quoi, je suis sérieusement prisonnier? Quoi, mes amis ne pourront me visiter? Quoi, il me sera défendu de sortir? Et l'idée du lendemain lui passait par l'esprit, de ce lendemain où sa présence était si nécessaire près de monsieur de Guise. Sire, dit le duc, qui voyait le roi prêt à se laisser fléchir, laissez-moi paraître au moins près de votre majesté. Près de votre majesté est ma place. Je suis prisonnier là aussi bien qu'ailleurs, et mieux gardé à vue même que dans toutes les places possibles, sire. Accordez-moi donc la faveur de rester près de votre majesté. Le roi, sur le point d'accorder au duc d'Anjou sa demande, à laquelle il ne voyait d'ailleurs pas grand inconvénient, allait répondre oui quand son attention fut distraite de son frère et attirée vers la porte par un corps très long et très agile qui, avec le bras, avec la tête, avec le cou, avec tout ce qui pouvait remuer, enfin, faisait les gestes les plus négatifs qu'on pût inventer et exécuter sans se disloquer les os. C'était Chicot qui disait non. Non, dit Henri à son frère, vous êtes fort bien ici, monsieur, et il me convient que vous y restiez. Sire, balbutia le duc, dès que cela est le bon plaisir du roi de France, il me semble que cela doit vous suffire, monsieur, ajouta Henri d'un air de hauteur qui acheva d'accabler le duc. Quand je disais que j'étais le véritable roi de France, murmura Chicot.